La prédication de ce matin que je vais donner, ça va plus sous la forme d'un enseignement. Il y a quelques mois en arrière, il y a plusieurs personnes dans l'église qui sont venues avec des questions sur des choses qui se passent dans la société aujourd'hui, en particulier par rapport à l'homosexualité, par rapport à la transsexualité, par rapport à toute forme comme ça de sexualité qui sortent du cadre que la Bible nous enseigne tel qu'on la comprend. Je crois que ce sont des questions qui sont légitimes. On entend de plus en plus de revendications, effectivement, de ce qu'on appelle les mouvements LGBTIQ. En fait, c'est toutes des lettres qui sont les initiales d'orientation sexuelles qui ne sont pas hétérosexuelles, qui sont alternatives à l'hétérosexualité. Florence parlait du manifeste qu'il y a eu concernant la grève des femmes le 14 juin, et dans ce manifeste, il y a aussi des revendications de cet ordre. Donc c'est quelque chose qui est très fort, et je crois qu'il pose des questions à l'Église, et puis les questions avec lesquelles les personnes sont venues sont légitimes. Et je pense que c'est important, et c'est pour ça que je suis venu avec ces derniers temps plusieurs prédications sur la sexualité pour reposer le cadre de ce que la Bible dit concernant la sexualité. Mais aujourd'hui, ce sera le dernier message de cette série et je voudrais répondre à ces questions, voir ce que la Bible dit par rapport à tout cela et effectivement comment se positionner, comment l'Église elle se positionne par rapport à des choix de vie comme cela, sachant ce que la Bible enseigne. Et comment, moi, en tant que chrétien, je me comporte par rapport à cela? Comment est-ce que j'accueille? Comment est-ce que je considère tout cela? Et si une personne est avec ces choses de cet ordre en elle, dans l'Église, tout en étant d'une démarche de foi, quelle attitude elle peut adopter? Vous voyez, c'est plein de questions qui sont délicates. Plein de questions qui sont délicates. Alors effectivement, tous ces mots que l'on entend, homo, trans, bi, que j'ai mis entre guillemets, qu'est-ce que c'est que ces mots? Dans l'Église, avec un point d'interrogation, pour réunir toutes ces questions. Ça peut être un sujet qui peut sembler ne concerner pas tous, mais je crois que c'est un sujet, vous allez voir, qui concerne tous, et qui, en tant que chrétien, vraiment nous concerne. Et on a à vraiment se poser ces questions. Alors d'abord, qu'est-ce que dit la Bible sur l'homosexualité et puis sur d'autres formes de sexualité? Donc la Bible, elle parle plus de l'homosexualité. Le reste, elle en parle beaucoup moins. Un peu ce qu'on appelle le travestisme, mais sinon, elle parle surtout de l'homosexualité. Et la Bible est claire par rapport à l'homosexualité. Déjà, dès l'Ancien Testament, où vous avez, quand Moïse vient donner la loi que Dieu lui inspire, déjà dans Lévitique, à un moment, il est dit, en Lévitique 18-22, que tout homme qui a des relations sexuelles avec un autre homme, c'est une abomination devant Dieu. Donc une abomination, ça veut dire quoi? Une abomination, ce qui était une abomination pour Dieu, ce qui est une abomination pour Dieu, c'est, de manière générale, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que c'est comparé à de l'idolâtrie. Et effectivement, le peuple d'Israël, il vivait parmi des nations qui avaient des pratiques comme cela. Et ils vivaient parmi des nations qui, à ce moment-là, on ne parlait pas d'hétérosexualité ou d'homosexualité. À ce moment-là, voilà, on a une sexualité qui pouvait s'exprimer de cette manière ou d'une autre, même chez une même personne. À ce moment-là, l'homosexualité, ça faisait partie même de la vie dans ces nations. C'était socialisé. Voilà, on ne se posait pas des questions comme cela. Et ça faisait partie notamment des religions païennes. Il y avait des prostituées qui étaient femmes, il y avait des prostituées qui étaient hommes, c'était de la prostitution sacrée, et puis que ce soit dans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Donc voilà, c'était cela. Mais ce que Dieu va venir dire au peuple qu'il va élire, c'est, voilà, vous êtes mon peuple, et je ne veux pas que vous soyez dans les pratiques qui sont celles des pays alentours. Et notamment, il y avait cela. Et c'était à tel point que, un peu plus loin, dans Lévitique 20-13, c'est même dit que c'était condamné à mort. Alors, on n'en est plus là aujourd'hui, hein. Mais c'était condamné à mort aussi. Il faut comprendre que le contexte, il était dur à l'époque. Le contexte était dur à l'époque et vraiment, il fallait que Dieu il tranche entre voilà ce qui se passait à côté dans les autres nations et le fait de salir un peuple. Mais dans le Nouveau Testament, c'est également le cas. Dans le Nouveau Testament, Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 6, 9, 10, il vient dire, il parle de plusieurs personnes qui sont dans un choix de vie qui ne correspond pas à ce que Dieu veut, que ce soit l'ivrognerie, que ce soit enfin, d'autres choses, la calomnie, le mensonge. Hein. Et puis il se dit aussi les personnes, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le mot grec, c'est arsénokoïtès. Voilà, et c'est ce que ça veut dire. Hein. Qui ont des relations de l'ordre dans le lit conjugal. Voilà, c'est ça qui veut dire le mot, entre hommes. Il dit que ces personnes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc là, de nouveau, dans le Nouveau Testament, c'est clair. C'est clair, même si c'est vrai que c'était dans un contexte social où, bah là, de nouveau, même dans la société grecque dans laquelle Paul était, bah, c'était, voilà, c'était, on va dire, c'était normal. Ça faisait partie de la vie. Mais Paul vient dire, bah, voilà, c'est concernant le peuple de Dieu, c'est différent. Alors, il y a des personnes qui viennent poser la question, mais qu'est-ce que la Bible condamne? Est-ce qu'elle condamne le contexte dans lequel ça se passait, ou est-ce qu'elle condamne l'homosexualité en tant que telle? Jésus, il n'a pas parlé d'homosexualité. Mais la seule fois où il a parlé de sexualité, de la vie du couple, il a juste dit une parole. Quand tu lui as posé une question sur le divorce, il a juste rappelé le cadre de ce que Dieu a prévu. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc il est juste venu rappeler que le cadre pour la sexualité, c'est celui-là. Et si on reprend ce que dit la Bible dès le tout début, dans Genèse 1, 27, dans Genèse 1, 27, c'est Dieu a créé l'être humain, homme et femme, et à son image. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à l'image de Dieu en tant qu'homme et femme, jusque dans leur sexualité. Donc, la Bible est claire. La Bible est claire par rapport à cela. D'où est-ce que ça vient du coup? Quelle est l'origine de cela? Si la Bible est claire et si ça existe, bah, pourquoi est-ce que c'est là? À un moment, Paul, je ne l'ai pas dit juste avant, mais Paul vient dire aussi dans Romains, dans la première épître aux Romains, que il y a eu l'idolâtrie, que les hommes se sont coupés de Dieu, qu'ils se sont mis à se prosterner devant des animaux, devant des images d'hommes, qu'ils ont adoré la créature au lieu du créateur, et que du coup, les femmes ont abandonné l'usage naturel. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais les hommes, en tout cas, ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leur désir les uns envers les autres, entre hommes. Donc, Paul, il fait le lien clairement entre l'idolâtrie et l'homosexualité. Il est en train de dire que l'homosexualité, c'est une conséquence de l'idolâtrie. Mais c'est ça aussi qui a fait dire, mais Paul, finalement, il parle surtout du contexte. Mais en même temps, si on lit bien le verset, Paul, il dit que les hommes, suite à cette idolâtrie, suite au fait de se prosterner, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose dans le cœur de l'homme qui fait, avec l'idolâtrie, qui encourage finalement bah, des modes de vie, des choix de vie qui ne sont pas dans le sens que Dieu a prévu, qui ne sont pas dans le sens de ce que Dieu a créé. Parce que ça va dans le sens d'une identité de l'homme et de la femme qui n'était pas ce que Dieu avait prévu au départ. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la chute? Avant la chute, l'homme et la femme tiraient leur identité de Dieu, hein, puisqu'ils sont créés à l'image de Dieu. Mais au moment de la chute, ce qui s'est passé, une des conséquences, comme Dieu a dit, ben, le sol a été maudit, du coup, ben, tu vas devoir travailler le sol à la sueur de ton front. Ça veut dire que du coup, l'homme va se mettre à tirer son identité plus de Dieu, mais de ses capacités de son travail, de ses performances. Et à la femme, il lui dit, tes désirs te porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Et ça veut dire que la femme, elle va être aspirée dans quelque chose où son identité, elle va aller la chercher chez l'homme. Mais à la base, ce n'est pas ce qui était prévu. Il y a eu en fait tout un bouleversement dans l'identité humaine. Il y a eu tout un bouleversement et ça a donné la place à ce que l'amour humain prenne la place de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il a été déplacé. L'amour de Dieu, c'est d'abord Dieu que l'on aime. C'est d'abord à Dieu que l'on s'attend. Et ça a mis l'amour humain en place d'idole. Et l'homosexualité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des jugements de valeur sur le fait d'être un homme, du coup, sur le fait d'être un homme, sur le fait d'être une femme, puisque Dieu vient dire que ben, voilà, l'homme, il travaillera les choses à la sueur de son front et que la femme, son mari dominera sur elle. Donc, du coup, est-ce qu'il vaut mieux être une femme? Est-ce qu'il vaut mieux être un homme? Est-ce que je me sens capable d'être un homme? Est-ce que je veux vraiment être une femme? Est-ce que je suis en accord avec ce que je suis? Et du coup, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir être attirées par le même sexe, des personnes qui vont pouvoir avoir envie de changer de sexe parce qu'il y a un bouleversement dans l'identité. C'est du moins comme ça qu'on peut comprendre les choses spirituellement. Pour illustrer ce que je vous dis, je vais vous donner un témoignage que vous avez entendu déjà, puisque c'est le mien. Voilà, moi je suis arrivé sur cette terre, en fait j'étais pas prévu au programme. Mes parents avaient utilisé un moyen de contraception qui normalement fonctionne à 98%. Donc moi je suis le 2%, vous voyez? Et mais ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que j'étais prévu au programme de Dieu. Et que Dieu m'a voulu. Et il a fait en sorte que je sois là. Mon enfance, elle s'est passée plutôt bien, je crois, plutôt joyeuse dans l'ensemble, même si je pouvais avoir parfois le sentiment que j'avais du mal à trouver ma place. Et c'est un sentiment qui s'est accentué quand je suis entré dans l'adolescence. Et quand je suis entré en adolescence, effectivement, j'avais du mal à trouver ma place, par exemple, par rapport aux autres garçons. Au départ, j'ai commencé à avoir de l'attirance pour le sexe féminin, mais très vite, j'ai senti en moi, et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est pas quelque chose que je suis allé chercher. J'ai senti que bah, j'étais attiré par les hommes. Alors, c'est pas que je suis tombé amoureux ou que j'avais envie d'être aimé par un homme, mais en fait, les spécialistes, ils parlent d'homoérotisme ou d'homosexualité, c'est pas la même chose. Et l'homoérotisme, c'est quand vous avez besoin de masculin et du coup vous allez le chercher au travers du fait d'avoir envie de relations sexuelles avec des hommes. Mais ouais, ce que je ressentais, c'est pas l'envie d'être aimé par un homme. Mais voilà, en tout cas, ce que je vivais et bah, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué et en même temps, moi, j'avais le désir de rencontrer une femme. J'avais le désir de tomber amoureux d'une femme. J'avais le désir de fonder une famille. Et donc tout ça, voilà, ça tiraillait en moi. Et donc je ne voulais pas vivre cela non plus, ces désirs homosexuels. Je ne voulais pas les vivre. Et du coup, ça s'est traduit par bah, une addiction à la pornographie. J'ai énormément consommé de pornographie, et jusque dans l'âge adulte. Donc voilà, c'était quelque chose de très remuant en moi. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus-Christ. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus-Christ. Et là, Jésus a commencé à changer des choses en moi. En fait, moi, le problème, c'est que je ne me sentais pas capable d'être un homme. J'étais bouleversé dans mon identité d'homme. Je ne me sentais pas capable d'être un homme. Donc, il fallait que j'aille chercher ça ailleurs, de cette manière. Ou c'est ça que je sentais à l'intérieur de moi. Et en rencontrant Jésus, Jésus m'a montré l'homme que j'étais. Il m'a montré qui j'étais en réalité. Et puis, j'ai commencé à, on va dire, me reconstruire. En tout cas, il a mis des choses en place pour que ça aille dans ce sens-là. Et notamment, ça a été la rencontre avec Estelle. Ça a été la rencontre avec Estelle. Donc, je me suis marié. Et nous avons eu trois enfants, Margot, Thibault et Alban. Et donc, il y a ça qui s'est fait, mais ses désirs étaient toujours là. Ses désirs étaient toujours là, et du coup, je pouvais être souvent tiraillé. Et à un moment, je me suis posé des questions, mais d'où ça venait, pourquoi c'est là? Est-ce que c'est parce que mon père, il était distant avec moi, et que ma mère, elle était plutôt effacée? Est-ce que j'ai manqué de l'affection de mon père? À un moment, c'est ce que je me suis dit. Il y a même des recherches qui ont été faites où on pense qu'il pourrait y avoir quelque chose d'hormonal, pourrait y avoir quelque chose de génétique. Il n'y a rien de vraiment sûr parce que tout ça, c'est très complexe. Est-ce que c'est tout ça qui se met ensemble? Bref, je me posais beaucoup de questions et à un moment, comme c'est quelque chose qui s'imposait à moi, je me disais, mais à un moment, j'ai vécu une vraie crise d'identité. J'ai vécu une vraie crise d'identité même en tant que chrétien. J'ai vécu une vraie crise d'identité dans ma foi, où je me disais, mais si c'est quelque chose qui s'impose à moi, si c'est quelque chose qui est là, que je n'ai pas choisi, mais c'est injuste. C'est injuste que la Bible elle condamne cela, alors que voilà, alors que je ne suis pas allé le chercher, je n'ai pas choisi. Donc, et à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? C'était vraiment terrible, je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais, je me demandais même si... mais est-ce que je me suis marié? Est-ce que je suis devenu père, finalement, pour ne pas vivre cela, juste pour me défendre de cela? Dans quelle mesure c'est vrai ce que j'ai construit? C'était vraiment très... waouh, très profond. Et je vous dis ça pour aussi vous puissiez mesurer, ben, quand il se passe des choses comme ça, ce que l'on peut rencontrer. Et puis... et j'ai continué de prier... et puis j'ai travaillé sur mon âme. L'addiction à la pornographie, elle est partie, à force de prière, à force de thérapie aussi, je dois le dire. Et à un moment, j'ai continué de m'accrocher au Seigneur. Et puis j'ai fini par réaliser des choses. J'ai fini par réaliser des choses qui vraiment m'ont rendu la liberté. J'ai fini par réaliser des choses qui m'ont sorti de cette crise d'identité. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, ben, ou même plutôt ce que j'ai accepté, c'est que ben, l'homosexualité, c'est une traduction de ce bouleversement de l'identité, c'est une traduction des conséquences du péché. Il y en a d'autres, mais il y a aussi ça. Et puis peut-être, oui, ça peut même se passer physiquement ou peut y avoir quelque chose d'hormonal ou de génétique, je ne sais pas. Ça peut être psychologique, j'en sais rien. J'ai arrêté de chercher pourquoi, en fait. J'ai arrêté de chercher pourquoi. Et je me suis dit, bah voilà, c'est là. Et, mais ça ne définit pas qui je suis. Ça ne définit pas ce qui je suis. Ce n'est pas la psychologie et la biologie qui définissent ce que je suis. Ce n'est pas ce que je vis dans mon corps et ce que je vis dans mon âme qui définissent qui je suis. Ce n'est pas ma vraie identité. Ce qui définit qui je suis, c'est Dieu. Je me suis rendu compte que mon identité, c'est bien au-delà de ces mots homo, trans, bi, ce ne sont pas des identités. Ce n'est pas ça l'identité de l'homme. L'homme a été créé par Dieu. Son identité, elle est en lui. Mon identité, c'est d'être enfant de Dieu. Et j'ai réalisé que c'était ça qui était important. C'était ça qui était important. Et que je suis bien plus que ces désirs. Je suis bien plus. Tu es bien plus que tout ce qui se passe en toi. Tu es bien plus que tout ce que tu ressens. Tu es bien plus que tout ce que tu penses. Tu es bien plus. Et le Seigneur sait ce que tu es. Ta valeur, c'est inestimable. Inestimable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'estimer. Ça veut dire que c'est énorme. C'est impossible de l'estimer. Et en même temps, c'est énorme. Et en même temps, ces désirs, ils sont là. Ils sont encore là, ils sont toujours là. Ils ne sont pas aussi forts qu'avant. Mais je sais qu'il y a toujours cela en moi. Et ça m'arrive des fois d'être dans des moments un peu de crise, ça m'est arrivé. Mais je sais que c'est toujours là. Et quand Jésus il dit, mais chacun portera sa croix, ben, j'ai compris que c'était aussi ma croix. Ben, moi, le péché, les conséquences du péché, ça s'est traduit de cette manière. Et d'autres, ça sera autrement. Mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix dans ma vie. Et le choix dans ma vie, c'est d'accueillir la présence de Dieu. Et ok, j'ai cela, mais la Bible dit que je ne peux pas le vivre, mais je peux vivre autre chose. Je peux vivre autre chose. Je peux vivre cette vie et cette présence de Dieu. Et de toute façon, quoi que l'on choisisse, il y a des personnes qui vont choisir finalement la vie homosexuelle, elles devront faire le deuil de ne pas pouvoir fonder une famille, de ne pas pouvoir. Alors aujourd'hui, on parle de l'homoparentalité, mais elles devront faire le deuil de ne pas pouvoir donner naissance depuis leur propre chair, avec la chair de la personne qu'elles aiment, à une chair qui est issue des deux. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Donc, à un moment, ça aussi, ça m'a. Je vous dis ça pour vous dire que ça m'a aidé, pour me dire, mais de toute façon, quoi que je choisisse, j'ai à renoncer à quelque chose. Et ce que j'ai préféré renoncer, bah, j'ai préféré renoncer à ces désirs-là pour vivre cette vie de Dieu telle que la parole en parle. Et porter sa croix, du coup, ça ne veut pas dire non plus rejeter toutes ces choses que je vis à l'intérieur. Ça veut dire aussi comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, à la lumière de Christ. Ça veut dire comprendre que ces fantasmes, ces pensées, ces désirs que je peux avoir, ben, ils parlent de moi. Ils parlent, ça dit qui je suis, ou ça dit des choses de moi, ça dit des choses de mon histoire, ça dit des choses de ma vie sur cette terre. Ça dit des choses aussi de ce que Dieu il veut faire en moi. Comment, qu'est-ce que Dieu il veut en faire de ça? Vous voyez, j'ai pas à le condamner, mais j'ai à comprendre. Qu'est-ce que Dieu il veut en faire de cela et comment ça peut servir à sa gloire? Comment ça peut servir à sa gloire? Finalement, moi, je m'appuie sur ce renoncement pour grandir toujours plus avec Dieu. Voilà en tout cas moi ce que je peux témoigner par rapport à cela. Mais du coup, quelle attitude avoir face à celui, celle dont la vie n'est visiblement pas en accord avec la parole? Et ça peut être l'homosexualité, mais ça peut être plein d'autres choses. Et puis, qui peut dire que sa vie est en accord avec la parole complètement alignée? Qui peut le dire ici? Levez le doigt. Merci. Dans la Bible, on n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple de problématique homosexuelle ou c'est bien dommage, ça nous rendrait bien service, on saurait voilà, ce qu'il faut décider, comment il faut se positionner, comment il faut se comporter. Il n'y a pas d'exemple clair, mais il y a un exemple quand même. Il y a l'exemple d'une femme qui avait un amour complètement déréglé, qui comptait sur l'amour humain d'une manière complètement déréglée. Cette femme, elle habite à l'époque de Jésus sur la terre d'Israël, elle habite en Samarie. Cette femme, elle habite en Samarie et cette femme, elle a une vie terrible. Elle a une vie terrible où elle vient puiser chaque midi de l'eau au puits de Jacob. Elle vient puiser de l'eau à une heure la plus chaude où elle est sûre de rencontrer personne. Parce que personne n'a envie de voilà, se taper des kilomètres avec des seaux d'eau qui sont très lourds sous la chaleur la plus forte. Donc elle sait que là, elle va rencontrer personne. Parce que cette femme, elle vit dans la honte. Elle vit dans la honte. Elle vit dans la honte parce qu'elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Et déjà pour l'époque, c'est impensable. Et en plus, avant cela, elle a eu cinq maris. Pourquoi cette femme, elle passe des bras d'un homme à l'autre? Est-ce que peut-être ça parle d'une dépendance sexuelle? On ne sait pas. En tout cas, qu'est-ce que ça dit de son cœur, où elle en est? Est-ce qu'il y a un vide chez cette femme? Qu'est-ce que ça dit du vide affectif qu'il y a dans sa vie? Et c'est auprès d'un homme qu'elle cherche à remplir ce vide. Et cette femme, elle vit dans la honte et c'est terrible. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, c'est comme ça. Jusqu'à un jour où ça change. Jusqu'à un jour où elle rencontre un homme qui arrive fatigué au puits. Un homme qui est juif. Elle peut le voir parce que sa robe, il a ce qu'on appelle des tzitzit. En tout cas, voilà, on voit que c'est un juif. Et cet homme vient lui demander à boire. Quoi? Un juif qui lui adresse la parole, elle qui est une samaritaine. Je vais lire le passage avec vous. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 4. On peut prendre la lecture à partir du verset 9. La femme de Samarie lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de l'eau à moi qui suis une femme de Samarie? Car les juifs n'ont pas de relation avec les gens de Samarie. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit: Donne-moi un peu d'eau pour boire, alors c'est toi qui lui en aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Où iras-tu chercher cette eau vive? Une eau vive, c'est une eau qui n'est pas stagnante. C'est une eau qui coule d'un ruisseau, qui coule d'une source. Ce n'est pas une eau qui reste dans une citerne, par exemple. Penses-tu être plus grand que notre père Jacob? Il nous a donné ce puits, il a bu lui-même ainsi que ses fils et son bétail. Jésus répondit: Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui comme une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Maître, donne-moi cette eau, lui dit la femme, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. Il lui dit: Va, appelle ton mari et reviens ici. Elle répondit: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris dans le passé et tu n'es pas mariée à l'homme avec qui tu vis en ce moment. Tu as dit la vérité. Maître, je vois que tu es prophète, répondit la femme. Ah, effectivement, elle est surprise, cette femme, que cet homme juif lui adresse la parole parce que les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, en particulier depuis que les Samaritains, ils viennent d'où? Les Samaritains, ce sont des païens qui ont été exilés par les Assyriens au moment où Israël avait été aussi exilé. Mais il y avait quelques Israélites qui étaient restés, et en fait, les Samaritains, ils sont issus de mariages entre les Israélites qui étaient restés et ces païens. Et ils se sont quand même mis à croire en l'Éternel en adoptant les 5 livres de Moïse, comme étant la parole de Dieu. Donc ils étaient assez proches et ils n'étaient pas dans l'idolâtrie. Mais par contre, pour eux, Dieu devait être adoré, pas à Jérusalem, mais sur une montagne qui s'appelle le mont Garizim. Et du coup, quand Néhémie est revenu avec Israël pour reconstruire Jérusalem, et ben là, les Samaritains se sont opposés. Et ça, les Israélites ne l'ont jamais digéré. Et donc, ils haïssaient les Samaritains. Et si vous reprenez, j'ai pas de plan là, mais si vous reprenez une carte avec la terre d'Israël, en bas, vous avez Juda, au milieu, vous avez Samarie, et au-dessus, vous avez la Galilée. Et avant de passer par la Samarie, Jésus, il était en Juda, et il voulait aller en Galilée. Et les Juifs avaient l'habitude, eux, de contourner, tellement ils ne voulaient pas avoir de contact avec les Samaritains. Donc vous comprenez la surprise de cette femme. Et donc Jésus, lui, il est passé direct. Jésus, lui, il n'est pas dans les codes sociaux, il n'est pas dans les traditions, il n'est pas dans les clivages dans lesquels on peut être en tant qu'être humain. Il vient rencontrer l'homme où il est, et là, en l'occurrence, la femme. Et ça aussi, c'était surprenant. D'ailleurs, un peu plus tard, on voit que les disciples arrivent, mais ils sont étonnés qu'il parle à une femme. Double surprise, vraiment, Jésus est là où on ne l'attend pas. Et elle lui dit: Mais tu es prophète. Un prophète, c'est pas celui avant tout qui prédit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui met le peuple devant son état de péché pour qu'il retourne à Dieu. Et quand elle dit « tu es prophète », ça veut dire qu'elle reconnaît que oui, sa vie, c'est un état de péché. Que ça ne va pas. Qu'elle n'est pas en règle avec Dieu. Et ce que Jésus vient lui dire en lui disant tout ça, il vient lui dire « mais ton vrai problème, ma fille, ton vrai problème, c'est pas que tu viens me puiser de l'eau tous les jours. » Parce qu'à un moment, il lui propose de l'eau vive. Alors elle croit que c'est une eau qui lui permettrait de ne pas aller puiser de l'eau. Elle croit encore que c'est de l'eau physique. Ton vrai problème, c'est pas ça. Ton vrai problème, c'est que tu comptes sur l'amour humain, l'amour d'un homme pour te sauver. Et c'est de cela, il y a un vide dans ta vie. Et ce vide, il n'y a que moi qui peux le remplir. Puisqu'après, Jésus, non seulement il lui dit « je peux te donner cette eau vive, cette eau spirituelle », mais il va lui dire « je suis le Messie, je suis le Sauveur. Et c'est moi qui peux donner sens à ta vie. » Et là, on voit, en fait, cette femme, elle a carrément perdu le sens de qui elle est, le sens de son identité, le sens de sa vraie valeur. Elle a perdu le sens de sa dignité parce qu'elle cherche à se combler, à donner du sens à son existence par de l'amour humain. Avant tout, avant l'amour de Dieu. Elle ne sait plus qui elle est. Et là, c'est là qu'on voit dans l'attitude de Jésus un modèle. Un modèle pour savoir comment se comporter par rapport à des personnes qui peuvent être par exemple dans l'homosexualité, qui peuvent être, par exemple, dans la transsexualité. Jésus, avant tout, il l'aime. Quand il vient lui montrer ce qui se passe dans sa vie, il ne la juge pas. Elle ne se sent pas jugée. Il fait juste un constat sur sa vie. Voilà, voilà ce qu'est ta vie. Il fait juste un constat et elle ne se sent pas jugée. Et c'est là, alors, qu'elle peut entendre sa parole. Là, elle vient lui poser des questions spirituelles. Elle vient lui demander, mais alors, vous, les Juifs, vous dites qu'on doit adorer Dieu où? Est-ce que c'est à Jérusalem ou nous, on dit que c'est sur le mont Garizim. C'est-à-dire, elle remet un peu l'eau sur le feu, quoi. Et Jésus, lui, la surprend, elle lui dit, mais le problème, c'est pas cela. Dieu, c'est pas sur un lieu qu'on va l'adorer. Dieu, c'est dans son cœur qu'on l'adore. Dans un cœur qui est renouvelé. Un cœur qui est renouvelé et que moi seul je peux renouveler parce que je suis le Sauveur, parce que ton cœur il est pécheur et c'est comme ça pour tout homme et toute femme. Et elle peut entendre cette parole parce qu'elle n'a pas été jugée. Jésus, il ne voit pas d'abord son état de péché. Jésus, il voit sa souffrance. Jésus, il voit avant tout notre souffrance, il voit notre douleur qui nous conduisent. Qui est lié au péché, mais qui nous conduisent dans le péché, qui nous conduisent dans des choix, dans des manières de faire qui ne sont pas justes devant Dieu. Mais Jésus, il voit avant tout la douleur, la souffrance qu'il y a là. Et là, elle se sent aimée. Là, elle se sent rejointe. Et là, après, Jésus la met en face de sa parole. D'abord, il voit notre souffrance et il nous met en face de sa parole. Un moment, il y a un pasteur qui avait été interrogé comme ça par rapport à l'homosexualité, et j'ai trouvé sa réponse vraiment super, et je voudrais vous la transmettre. Qu'est-ce qu'il ferait par rapport à des personnes qui sont homosexuelles et qui rentrent dans l'église? Et le pasteur vient dire, mais voilà, moi, si deux personnes comme ça, deux hommes, main dans la main, entrent dans l'église, est-ce que je vais me précipiter en allant leur dire, mais attention, là, faut pas faire ça, vous pouvez pas, ou est-ce que je vais les accueillir? Et que je vais venir avec la parole, leur dire, mais ouais, voilà, je vais déjà connaître d'abord, savoir qui ils sont. Et puis je vais venir avec la parole, mais vous dites quoi de cela? Qu'est-ce que vous dites de ces versets? Comment vous positionnez? Et là, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est ça le modèle que Jésus nous donne. D'abord, on aime les gens, on aime les personnes. Quelles qu'elles soient, et quel que soit leur choix de vie. Et à partir du moment où les personnes, elles se sentent aimées, elles se sentent aimées de l'amour de Dieu, c'est-à-dire cet amour agapé, cet amour qui ne juge pas, là, elles peuvent accueillir la parole. Et là, le Saint-Esprit, il peut œuvrer à partir de la parole. Et je crois que c'est ça l'attitude à avoir avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. C'est en tout cas ce que Dieu nous dit dans ce texte. C'est ce que Dieu nous montre avec cette Samaritaine. Alors, je vais conclure. Ces questions-là, toutes ces questions auxquelles j'ai essayé de répondre, c'est assez délicat. Tout ça, ce sont des défis. Ce sont vraiment des défis. Ce sont des défis pour l'Église, parce que ce sont des défis qui nous mettent devant la nécessité d'être dans l'amour et en même temps d'être dans la justice. D'être dans l'amour et en même temps d'être dans le respect de la parole de Dieu. Et ça, souvent, il y a des tensions. L'Église, souvent, elle est partagée entre rejeter ou tout accepter. Et Jésus ne fait pas ce choix. Et il n'y a qu'avec Jésus. Ça nous motive ou ça nous met dans cette responsabilité de grandir dans cet amour et de grandir dans cette connaissance de la parole pour pouvoir venir avec la parole dans diverses situations de vie. C'est un défi pour les familles. C'est un défi pour les familles aussi, des familles qui sont chrétiennes aussi et qui voient des personnes aller dans ces choix de vie. Alors comment je vais continuer d'aimer? Et c'est un défi pour la personne aussi qui peut être concernée, qui en même temps veut marcher dans la foi avec Dieu, veut être juste dans la justice de Dieu, veut être aligné selon sa parole. Et là, c'est à l'amour de Dieu, il n'y a qu'à l'amour de Dieu que tu peux te raccrocher. C'est l'amour de Dieu qui te conduit vers sa justice. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit vers la justice de Dieu. C'est un défi pour ces personnes. Et l'issue, c'est de comprendre, de réaliser, de proclamer que notre identité, elle est en Dieu. Pour une personne qui est là-dedans, ton identité, elle est en Dieu. Ton identité, elle est en Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui te rétablit. Et c'est sa justice qui t'aide à marcher avec lui. Amen. On va juste incliner nos têtes et prier par rapport à tout ce qui a été dit. Ouais, Seigneur, nous voulons te prier, nous adresser à toi par rapport à toutes ces questions qui sont délicates, qui nous rejoignent dans des choses profondes, qui nous rejoignent dans ce cœur que l'on a à aimer comme toi, à pouvoir aimer comme toi. Et à être juste, à être aligné selon ta parole. Seigneur, c'est un chemin. On a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de ta présence, ta personne. Seigneur, moi j'ai essayé de répondre aux questions. Saint-Esprit, c'est toi qui réponds avant tout. Et je te prie que tu révèles ta vérité par rapport à cela. Que nous sachions vraiment nous aligner selon ta parole et en même temps être dans ton amour et tout ça, ça va ensemble. Ouais Seigneur, que tu nous donnes de la compassion. Que tu nous donnes d'être remplis de ton Saint-Esprit, ton esprit d'adoption. Que tu nous donnes d'être, de saisir, de recevoir cette révélation, ce que c'est que d'être aimé par toi, que de t'avoir comme Père. Viens nous transformer, chacun, chacune, par ton amour. Conduis-nous par ton esprit. Et Seigneur, quand nous allons nous retrouver face à des personnes qui peuvent être soit qui ont fait ce choix de vie, d'une sexualité qui ne correspond pas à ce que tu enseignes, soit qui ne veulent pas le vivre, mais qui sont tiraillés, bah, Seigneur, que tu nous donnes, que tu nous équipes. Je prie dans le nom de Jésus que nous soyons équipés par toi. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui nous empêche d'être dans ton amour en nous tombe maintenant. Je prie, Seigneur, que tu ouvres notre cœur, tu élargis l'espace de notre tente. Ouais, je te remercie, Seigneur, pour ce chemin que l'on a avec toi. Nous avons tous à nous aligner selon ta parole. Nous avons tous à grandir avec ton amour, Seigneur. Et je te remets le chemin de chacun, chacune, là où on en est avec toi. Je te prie qu'on ne soit pas dans le jugement envers nous-mêmes. Comme cette Samaritaine pouvait sans doute être dans le jugement envers elle et vivre le jugement des autres. Mais Seigneur, que l'on puisse avoir ce regard sur nous-mêmes que toi tu poses et qu'on puisse avoir ce regard sur toute personne que toi tu as, Seigneur. Merci Jésus pour qui tu es, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je propose qu'on reste juste quelques instants dans la présence de Dieu. Qu'on laisse son esprit agir en nous. Seigneur, je voudrais te prier pour des personnes, des familles qui peuvent être dans cette situation d'avoir un membre de leur famille qui a ses désirs homosexuels ou qui est en doute et qui peut être troublé ou être en doute par rapport à son identité sexuelle telle que toi, tu l'as voulu. Et je prie pour ces familles, je te remets ces familles. Je te remets ces personnes, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, j'appelle vraiment ton amour en elles. Pas de l'amour humain, mais ton amour, Seigneur, ton amour qui renouvelle. J'appelle vraiment le renouvellement de leurs pensées. Je te remercie, Seigneur, que ces situations, si elles peuvent être douloureuses, soient des situations qui servent à ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie que ça serve à ta gloire dans la vie des personnes qui sont concernées. Et que ce soit vraiment ton amour qui soit transmis, tout en restant ferme par rapport à ta parole. Et merci Seigneur de nous donner cette fermeté en même temps que cet amour. Je prie vraiment pour ces personnes en particulier, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, ton soutien. Merci que toi, tu donnes des issues. Toi, tu ouvres un chemin, Seigneur. Et ce chemin, c'est toi. Merci pour ce que tu révèles. Et je te prie pour des personnes qui pourraient être dans ces situations-là, Seigneur. Je te prie que tu te révèles à elles, Seigneur. Je te prie que tu leur montres qui elles sont vraiment en toi. Que leur vie ne se réduise pas à leur sexualité. Que ça ne se réduit pas à leur relation. Mais c'est toi, Seigneur. C'est toi qui leur dis qui elle est. Je te prie, Seigneur, qu'il y ait une connexion avec ta parole. Ouais, Seigneur, je proclame vraiment la puissance de ton salut sur toutes ces vies, la puissance de ton sang, dans le nom de Jésus. Amen.